Le rôle de la lumière dans le monde vivant, c'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré, puisque la vie sans lumière serait impossible. C'est elle qui a permis à la vie d'apparaître sur notre planète en permettant la synthèse des toutes premières molécules du vivant dans la soupe prébiotique il y a plusieurs milliards d'années. Et à l'occasion de cette année internationale de la lumière proclamée par les Nations Unies, je reçois dans un instant les physico-chimistes Elisabeth Bardez et Bernard Valeur qui publient ensemble La lumière et la vie, une subtile alchimie aux éditions Belin. J'attends dès maintenant toutes vos questions, vos messages. Franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. On en sait plus sur nos lointains cousins, les Denisoviens, et c'est aujourd'hui la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu. Oui, deux nouvelles dents viennent d'être analysées par les chercheurs de l'équipe de l'Institut Max Planck à Leipzig. Et selon ces chercheurs, les Denisoviens ont peut-être un jour peuplé une large part de l'Asie. On vous explique tout dans un instant à la une de la science avec vos questions sur les réseaux.
Stéphanie Texier est aux commandes de cette Tête au Carré qui a été préparée aujourd'hui par Carole Sauvage.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La lumière et la vie, le dossier donc dans un instant de La Tête au Carré avec mes invités que je salue, Elisabeth Bardez et Bernard Valeur. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Bernard Valeur. La vie sur notre planète serait donc impossible évidemment sans la lumière. Est-ce que c'est l'alternance entre la lumière et l'obscurité qui permet justement au vivant d'exister ?
Alors d'abord, je voudrais revenir sur le mot impossible, parce que si la lumière est absolument essentielle pour la vie, puisque sans lumière, il n'y aurait pas de végétaux, et que les végétaux sont les premiers maillons de la chaîne alimentaire, on ne peut pas dire qu'elle est, que la lumière est strictement indispensable, parce qu'elle existe dans les sources hydrothermales. Mmh. Et il y a même des bactéries à 1500 mètres de profondeur, et dans les sources hydrothermales, il s'agit de chimiosynthèse et non pas de photosynthèse. Quant à l'alternance jour-nuit, eh bien, finalement, la vie s'est adaptée à cette alternance qui lui a été imposée par la rotation de la Terre. Et donc, de ce fait, les êtres vivants ont développé des rythmes biologiques, ce qu'on appelle les rythmes circadiens, et la lumière intervient comme synchronisateur de ces rythmes circadiens.
C'est donc notre vie à nous, les humains en tout cas, qui serait impossible sans lumière. Elisabeth Bardez, les animaux, justement, perçoivent la lumière de façon très différente. On va beaucoup parler des yeux avec vous dans quelques minutes. Ça influence également beaucoup le comportement animal ?
Eh bien, on peut peut-être dire les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que les animaux, leur comportement, leur environnement, leur mode de vie a conditionné l'évolution de leurs yeux. C'est plutôt dans ce sens qu'il faut voir les choses. On peut prendre l'exemple de l'aigle qui chasse en altitude. Eh bien, il a acquis une acuité visuel hors du commun grâce à des systèmes de focalisation et de très nombreux photorécepteurs. On va dire par exemple qu'à 1500 mètres, il est capable de discerner un petit animal qui fait 15 cm. C'est remarquable.
Et les yeux, on va en parler largement avec vous. Exploration de la lumière dans le monde vivant, donc avec les messages et les questions des auditeurs qui nous rejoignent. Et à la une de la science aujourd'hui, des révélations autour de l'espèce éteinte des Denisoviens.
En Russie, des archéologues ont exhumé la trace d'une toute nouvelle espèce humaine.
La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans le monde archéologique.
Ce qui pourrait bouleverser ce qu'on sait des premiers hommes.
Une nouvelle espèce d'hominidés anciens. Une découverte presque aussi importante que celle de l'homme de Néandertal, 150 ans auparavant.
On s'est dit, les Néandertaliens tirent leur nom de la vallée de Néander, où ils ont été trouvés en 1856. Puisqu'on a trouvé ça dans la grotte de Denisova, appelons-les des Denisoviens.
Et ça fait à peine 5 ans que ce nouveau cousin des hommes modernes a été découvert donc dans cette grotte de Denisova en Sibérie. Les précédentes analyses ADN avaient montré que les Denisoviens avaient cohabité et même fricoté à la fois avec les Néandertaliens, mais également avec les hommes modernes. Bonjour Jean-Jacques Hublin.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes paléoanthropologue à l'Institut Max Planck de Leipzig en Allemagne. Alors ces nouvelles analyses ADN de Denisovien, qu'est-ce qu'elles révèlent exactement ?
Eh bien elles nous révèlent des informations très importantes sur l'histoire de ce groupe et sur sa diversité.
Alors ce groupe, c'est une nouvelle espèce, on peut le dire.
Ah, la notion d'espèce, c'est un concept. Alors, disons que c'est quelque chose qui est proche, oui, d'une espèce différente de mammifères, mais avec une possibilité d'hybridation, de reproduction avec les Néandertaliens ou les hommes modernes.
Qu'est-ce que nous apprend Jean-Jacques Hublin une forte diversité génétique chez les Denisoviens?
Alors, il faut répéter peut-être que pendant que les ancêtres de l'homme moderne évoluaient en Afrique, les Néandertaliens se développaient en Eurasie, et on sait maintenant avec la découverte de ces Denisoviens qu'en fait ils avaient des cousins qui existaient quelque part en Sibérie, dans l'Altaï. Avec ces nouvelles découvertes, dans le fond, ce que l'on découvre, c'est que l'occupation de la grotte de Denisova par ces hommes est beaucoup plus longue que ce que l'on croyait.
C'est-à-dire pendant combien de temps à peu près ?
Au moins 60 000 ans.
Ouais.
Tout ça se passe probablement avant 70 000 ans. Hein. Donc 60 plus 70, vous voyez, on retourne assez loin dans le passé. On sait que les Denisoviens et les Néandertaliens représentent deux groupes frères, deux branches qui se sont séparées l'une de l'autre il y a à peu près 400 000 ans.
Ouais.
Et avec ces nouveaux fossiles, et surtout avec l'ADN qu'ils nous livrent, on se rend compte que l'histoire démographique de ces deux groupes est assez différente. C'est-à-dire que les Néandertaliens ont connu des réductions très importantes de leur diversité, sans doute à cause d'espèces de goulots d'étranglement démographique, génétique, hein, de fortes réductions de la population pendant des épisodes glaciaires. Au contraire, les Denisoviens semblent beaucoup plus variés, et ça confirme l'idée qu'en fait, ce que l'on a dans l'Altaï, ce que l'on a à Denisova, eh bien, c'est la marge, la frange d'une population beaucoup plus importante qui a occupé une partie de l'Asie, une partie importante de l'Asie, et qui était peut-être beaucoup plus diversifiée que ce que l'on trouve à Denisova.
Jean-Jacques Hublin, quand vous parlez des fossiles, justement, quelles sont les pièces à conviction dont on dispose pour travailler sur ces Denisoviens ?
Alors, à Denisova, fort peu de choses, en fait. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une information génétique d'une richesse absolument extraordinaire. On a un génome complet de ces hommes. En termes de fossiles, eh bien, on a un petit bout d'une phalange d'une petite fille,
oui,
d'environ 8 ans, donc c'est gros comme un grain de café à peu près. Et puis, deux dents de sagesse d'adultes, alors qu'elles sont assez remarquables parce qu'elles sont très très grosses et elles ont une morphologie très bizarre. Mais enfin, on est très très loin d'un crâne complet ou d'un squelette de Denisovien. Hein.
Est-ce que parmi les fossiles retrouvés en Asie, on trouve une trace de Denisovien ?
Officiellement, pour l'instant, non. Mais nous sommes plusieurs auteurs à déjà avoir écrit et clamé que probablement dans les collections paléontologiques, en particulier les collections paléontologiques chinoises, on a probablement déjà des restes, et même des restes assez complets de Denisoviens. Parce qu'on sait que ces Denisoviens ont existé en Asie depuis donc au moins 400 000 ans, et on sait qu'ils ont existé probablement aussi dans le sud de l'Asie, puisqu'on a une hybridation avec les hommes modernes qui est encore visible dans des populations actuelles d'Australie et de Mélanésie. Donc, en fait, si on regarde tout le matériel paléontologique asiatique, eh bien, potentiellement, tout ce qui date entre, disons, 400 000 et 100 000 avant le présent peut être Denisovien.
Vous voulez dire que les chercheurs chinois font de la rétention de fossiles ?
Ben, les chercheurs chinois, ils ont une idée assez particulière sur l'évolution humaine qui est très sino-centré, si je peux dire. Hein. Et donc, ces vagues de peuplement qui viennent d'Afrique, c'est pas quelque chose qui est vraiment intégré dans les modèles qui sont défendus par les chercheurs chinois. Mais ça viendra, parce que il y a, encore une fois, un certain nombre de fossiles, en particulier dans le nord de la Chine, qui, morphologiquement, des dents en particulier ressemblent quand même pas mal à ces dents de Denisova, et puis ont des caractères qui, dans le fond, en font des cousins vraisemblables pour les hommes de Néandertal dans la bonne fenêtre de temps.
Et ça ressemble à quoi alors une dent de Denisovien, Jean-Jacques Hublin ? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier alors ?
Elle est très très grosse, donc sont des dents de sagesse, hein, des troisièmes molaires. Alors ces dents, chez l'homme actuel, elles sont généralement réduites, même parfois disparues complètement. Et avec ces Denisoviens, qui sont quand même un groupe humain relativement récent, hein, puisqu'on parle de quelques centaines de milliers d'années, eh bien on a des formats dentaires qui rappellent ce qu'on trouve chez les premiers représentants du genre Homo il y a 2 millions d'années en Afrique.
Jean-Jacques Hublin, est-ce que ça veut dire ce que vous nous dites aujourd'hui, que le territoire couvert par les Denisoviens était plus grand que celui occupé par les Néandertaliens ?
Eh bien, c'est presque certain, parce que d'abord, il suffit de regarder une carte, hein, l'Asie, c'est immense. On sait donc que des hommes modernes en chemin vers l'Australie ont croisé, et se sont croisés d'ailleurs, avec des Denisoviens. Et donc, on est obligé d'imaginer une distribution, en gros, qui va de la Sibérie jusqu'à l'océan Indien. Donc, c'est une surface énorme. Alors maintenant, il faut bien se rendre compte que ce soit la distribution des hommes de Néandertal ou celle des Denisoviens, elle a fluctué au cours du temps. Et on sait en particulier que les hommes de Néandertal, à un moment de leur histoire, probablement vers la fin, eh bien, ont étendu leur territoire très loin vers l'est, et on les trouve aussi dans la grotte de Denisova. Donc cette grotte de Denisova, même si elle est, j'allais dire, marginale par rapport au territoire des Denisoviens, elle nous raconte une histoire quand même qui est assez extraordinaire, puisqu'on a, dans le fond, trois groupes humains qui se sont succédés dans cette grotte. On a ces Denisoviens qui ont existé là pendant au moins 60 000 ans, probablement plus. On a une excursion de Néandertaliens qui arrive là à un moment donné. Peut-être qu'ensuite on a encore des Denisoviens. Et puis plus tard, les hommes modernes arrivent et eux, ils remplacent tout le monde.
Ouais. À quel moment ont disparu les Denisoviens, Jean-Jacques Hublin ?
Alors, probablement au moment de l'arrivée des hommes modernes dans la région, hein, c'est-à-dire, disons, il y a 45 000 ans à peu près, peut-être 50 000 ans.
Merci beaucoup en tout cas pour ces nouveaux éclairages, hein, sur ces Denisoviens, découverts d'ailleurs grâce à vos équipes de l'Institut Max Planck de Leipzig, et donc cette publication qui est sortie dans les PNAS. Merci beaucoup Jean-Jacques Hublin.
Merci, au revoir.
Bonne journée à vous. Merci Axel.
À demain Mathieu.
À demain pour une nouvelle Une. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les êtres humains et les rivières respirent de la même manière. C'est le résultat surprenant d'une étude britannique qui révèle qu'à l'instar des hommes en plein effort physique, les rivières les plus rapides produisent davantage de CO2 que les cours d'eau paresseux. La quantité de carbone ainsi expirée par les rivières et mesurée à l'infrarouge pourrait atteindre jusqu'à 2000 milliards de kilogrammes de carbone par an, selon les scientifiques. Une nouvelle clé donc pour mieux appréhender le cycle du carbone. Nous vous faisions part fin octobre de la découverte miraculeuse de cadavres congelés de lions des cavernes, les plus grands prédateurs de la préhistoire, en Sibérie là aussi. Eh bien, leurs clichés ont été révélés au grand public cette semaine et vous pouvez donc dès maintenant les voir sur la page Facebook et sur le compte Twitter de la Tête au Carré. Et puis à découvrir également la première photo d'une planète en cours de formation. Des astronomes ont réussi l'exploit de prendre sur le fait la formation d'une exoplanète située dans un très jeune système stellaire à 450 années-lumière dans la constellation du Taureau. Une prouesse lorsque l'on sait que la différence de luminosité entre une étoile et une planète est comparable à celle d'une luciole et d'un phare. Et la lumière, justement, c'est le dossier dans un instant de la Tête au Carré avec vos messages et vos questions sur franceinter.fr.
Toi.
Marba Gayot avec À côté de toi.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
La lumière et la vie, c'est une subtile alchimie et c'est justement un livre qui paraît aux éditions Belin. C'est également le dossier de notre tête au carré avec ses auteurs, les physico-chimistes Elisabeth Bardez et Bernard Valeur. Elisabeth Bardez, vous êtes professeur honoraire des universités au CNAM et Bernard Valeur, vous êtes professeur émérite à ce même Conservatoire National des Arts et Métiers. Les questions des auditeurs nous parviennent sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. De quoi s'occupe un physico-chimiste, Elisabeth Bardez?
Un physico-chimiste s'intéresse aux processus accompagnant les réactions chimiques, les processus élémentaires, les successions de réactions. Mm-hmm. Un physico-chimiste s'intéresse également à tout ce qui est chimie des solutions, à la thermodynamique, à la cinétique, et voilà, enfin la structure de la matière également, que oui. J'ai omise et qui est très importante.
Et un physico-chimiste s'intéresse beaucoup à la lumière, Bernard Valeur ?
Oui, les photophysico-chimistes que nous sommes, ouais. S'intéresse
ah
beaucoup
oui,
à la lumière.
Ah oui, il y avait autre chose à ajouter alors.
Voilà.
Oui, c'est ce qui est un peu notre spécialité de recherche, puisque toutes nos recherches ont porté sur les interactions entre lumière et molécules dans divers domaines.
Ouais.
Et surtout les mécanismes élémentaires, qu'est-ce qui se produit lorsque une molécule absorbe un photon, qu'est-ce qu'elle devient. Alors elle peut transférer de l'énergie, elle peut transférer un électron, et ces processus se retrouvent en milieu vivant.
Ouais.
Donc c'est tout à fait intéressant. Et puis comme ça nous a conduit aussi à avoir des collaborations avec des biologistes. Et tous les deux, nous avons également créé au Conservatoire des Arts et Métiers un cours de physico-chimie appliquée au processus biologique, ce qui vous explique qu'on a été naturellement conduit à concevoir un ouvrage très général,
oui,
sur la lumière et la vie, sans se prétendre évidemment spécialiste. Chaque chapitre pourrait faire l'objet d'un ouvrage, mm-hmm, entier. C'est pour ça que nous avons fait appel aussi à des spécialistes pour nous relire.
Hein, oui, parce oui. Que... Mais il y a de la biologie aussi du coup dans le livre.
Obligatoirement de la biologie, ouais, mais il n'y a pas que de la biologie. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de la photobiologie, c'est aussi de la photophysique, c'est aussi de la photochimie.
Ouais.
C'est extrêmement vaste.
Donc photophysico-chimiste, hein, voilà.
Oui.
2015, c'est donc l'année internationale de la lumière, à l'initiative de l'ONU, on en avait parlé au tout début de l'année. Il y a eu énormément de manifestations, c'est incroyable, en France
oui,
en particulier.
Oui,
hein.
Oui. La lumière est quelque chose qui fascine, qui intéresse beaucoup et qui fédère également,
oui, hein,
qui va fédérer beaucoup de disciplines qui vont des sciences aux arts, et éventuellement à la littérature, à la philosophie.
Mmh. Donc Bernard Valeur, le livre arrive à point nommé pour montrer quoi au fond? L'importance capitale de la lumière dans le monde vivant, c'était ça?
Oui, c'est tout hein, à fait ça. Une importance absolument capitale, mmh, avec des facettes d'une extraordinaire variété, mais aussi d'une extraordinaire complexité.
Ouais, il y a beaucoup de travaux dans ce domaine qui
sont publiés
régulièrement.
Il y a beaucoup de travaux et on est loin d'avoir élucidé tous les mécanismes intimes de tous ces phénomènes induits par la lumière.
Ouais, vous l'expliquiez un petit peu tout à l'heure sur le sommaire. Est-ce qu'on peut dire que l'ensemble du monde vivant est conditionné par la lumière, les plantes comme les animaux? Est-ce que tout ça justement est contrôlé par la lumière ou est-ce qu'il faut faire quand même certaines exceptions?
Oui, il faut faire certaines exceptions. La plus notable, je pense, que sont les sources hydrothermales qui apportent des éléments chimiques indispensables. Et bien que la température soit élevée, mais on a quand même des conditions thermodynamiques telles que des réactions chimiques puissent justement se produire.
Oui, on va parler beaucoup avec vous des horloges biologiques,
oui,
justement. Hein. La lumière, là, pour le coup, joue un rôle capital.
La lumière joue un rôle de synchronisateur de ces horloges, mm-hmm, hein, puisque ces horloges sont faites pour que les organismes vivants suivent le mouvement de rotation de la Terre, soit dans la journée, soit dans la nuit. Et la lumière sert de synchronisateur, un des synchronisateurs, il y en a d'autres.
Ouais, la floraison, le sommeil, oui, l'hibernation, on va avoir l'occasion d'en discuter avec vous. On va parler de couleurs aussi, Bernard Valeur,
ah,
on
oui,
vous avait reçu
oui,
il y a quelques années à ce
tout
sujet.
À fait, tout
hein,
à fait, oui.
La lumière et la couleur, évidemment, oui, et oui, les couleurs.
Et surtout les couleurs, et qu'est-ce que la couleur,
ouais. Est-ce que les hommes ont compris très tôt l'importance de la lumière dans le processus de la vie? Est-ce qu'on s'est interrogé très, très tôt justement sur ces phénomènes?
Oui, 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 très tôt. Là, je crois qu'Elisabeth, qui est férue des histoires des sciences, peut en parler mieux que moi. Mais très tôt, on s'est interrogé justement sur le mécanisme de la photosynthèse.
Oui, on s'est aussi interrogé sur le mécanisme de la vision dès l'Antiquité grecque.
Aussi, et, oui.
Bon, etc. En passant l'époque de l'Antiquité, mais en parlant alors de la photosynthèse qui est tout à fait autre chose, eh bien, on a commencé à la décrire, on dira, dès le 18e. siècle, vraiment peut-être un petit peu avant, mais disons c'était embryonnaire à la décrire, et puis ensuite à la définir, à la décrire. Ça s'est poursuivi au cours du 19e, mais c'est vraiment le 20e siècle qui a vu l'explosion de la compréhension des mécanismes.
Ouais, mais vous remontez très loin, hein, parce que effectivement, dès l'Antiquité, au fond, les divinités étaient dédiées, certaines d'entre elles,
à la lumière
naturellement. Au soleil.
Puis on s'interrogeait beaucoup sur la vision, sur ce que
c'était. Surtout une préoccupation sur la vision plus que sur l'interaction de la lumière avec la matière vivante.
Ouais, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on s'interrogeait beaucoup sur le mécanisme de la vision, comment on voyait, même les pythagoriciens pensaient que la lumière était émise par l'œil, alors que c'est finalement par la suite qu'on a pu démontrer que c'était l'inverse grâce à divers savants par la suite.
Écoutons la voix de Jean-Claude Amezène, justement, qui évoquait le rôle essentiel de la lumière dans son émission sur les épaules de Darwin.
L'oxygène que nous respirons continue depuis 2 milliards d'années à être produit par l'activité de photosynthèse des plantes terrestres et du phytoplancton, les cyanobactéries et les algues à la surface des océans. Et à chaque fois que nous inspirons et que nos poumons s'emplissent d'oxygène, nous respirons l'effet de la lumière du soleil sur les plantes, les cyanobactéries et les algues. La lumière qui permet la vie. La lumière qui nous permet de respirer. La lumière qui nous permet de voir.
Voilà Jean-Claude Amezène, que vous retrouvez bien sûr tous les samedis matins sur France Inter. Nos poumons, notre respiration, c'est l'histoire justement de la lumière du soleil.
C'est-à-dire que notre respiration est un moyen de réaliser la respiration pulmonaire, est un moyen de réaliser la respiration cellulaire qui va fournir l'énergie dont nous avons besoin par réaction entre des glucides et de l'oxygène. Donc naturellement, l'oxygène dit oxygène par les chimistes, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Effectivement, il est produit par photosynthèse. Voilà.
Bernard Valeur, est-ce que l'on sait exactement le rôle qu'a joué la lumière dans l'apparition de la vie ? On a pu retracer le scénario des tout premiers instants et à quel moment ça s'est passé justement par rapport à notre histoire terrestre ?
Oui, alors ça c'est une question extrêmement difficile parce qu'on s'interroge encore beaucoup aujourd'hui sur les scénarios qui ont conduit à l'apparition.
Vous en proposez plusieurs d'ailleurs.
Hein. C'est pas moi qui les propose, c'est les spécialistes qui les proposent. Je crois d'abord qu'il faut bien faire la distinction entre l'apparition des briques du vivant, c'est-à-dire les acides aminés qui constituent les protéines et d'autre part les nucléotides qui constituent les acides nucléiques ADN et ARN. Et parce que il y a une marge entre l'apparition des briques du vivant et vraiment la première entité vivante qui en particulier doit pouvoir se reproduire.
Ouais, alors il s'est passé combien de temps entre ces deux phénomènes ?
Bon, mais d'abord ce qu'il faut préciser c'est que parmi les scénarios où la lumière aurait pu jouer un rôle, il y en a que deux en fait. Hein. C'est d'une part le bombardement de la Terre, de la soupe prébiotique contenant de l'eau, de l'ammoniac, du dioxyde de carbone, du méthane. Mm-hmm. Eh bien, ce bombardement par des divers rayonnements, en particulier les rayonnements UV, parce que quand on parle de l'influence de la lumière sur l'apparition de la vie, il faut prendre la lumière au sens plus large, c'est-à-dire pas seulement la lumière au sens strict, c'est-à-dire la lumière visible par l'être humain, mais également l'UV et puis même l'infrarouge. Et justement, l'UV est suffisamment énergétique pour amorcer des réactions chimiques.
Donc vous parlez de l'irradiation de cette soupe primitive.
Voilà, cette soupe primitive, au fond, exactement, parce que ces expériences datent des années 1950. C'était les fameuses expériences de Stanley Miller, exactement, qui, de cette soupe prébiotique, a pu montrer l'existence d'acides aminés.
Ouais, donc il a essayé de recréer en laboratoire, les origines de la vie. Mais alors vraiment, les toutes premières.
Les toutes premières, alors c'était vraiment...
C'est la Terre primitive, là.
Voilà, c'est la Terre primitive, mais c'est pas le seul scénario. Même si ce scénario a été un petit peu amélioré par la suite, parce qu'on a rajouté d'autres ingrédients, comme l'acide cyanhydrique. Mm-hmm. Et à ce moment-là, on a trouvé des bases azotées des nucléotides. Et puis, il y a un deuxième scénario, qui est pas moins improbable, qui ferait appel également à la lumière au sens des ultraviolets. C'est le bombardement de la Terre par les météorites, il y a environ 3,8 à 4 milliards d'années. Et ces météorites contenaient déjà des acides aminés et voire même des bases des nucléotides. Et en fait, fait, il s'agit de réactions qui auraient eu lieu dans l'espace, en particulier dans les glaces qui entouraient le cœur rocher de météorites ou de comètes, etc. Ouais.
Donc il y a plusieurs scénarios au fond.
Donc il y a plusieurs
les
scénarios.
Les choses sont pas totalement tranchées.
Oui, et puis il y a deux autres scénarios qui ne font pas intervenir la lumière justement. Ouais. C'est ce que je disais au tout début de l'émission, c'est que tout à fait possible de voir apparaître des espèces vivantes dans les sources hydrothermales. Ouais. Et donc, c'est plus de la photosynthèse, c'est de la chimiosynthèse. Ouais. Et d'autre part, à l'abri de la lumière, parce qu'il faut bien voir que les UV sont suffisamment énergétiques pour déclencher des réactions chimiques, mais ils ont également un effet délétère. Et donc, il faut que les espèces qui se forment puissent être protégées aussi de la lumière. C'est pour ça que un des scénarios, parmi les quatre les plus probables, les argiles tiennent une bonne place. Parce que ces briques du vivant peuvent s'insérer dans les feuillets de ces argiles et ça, ils peuvent servir de catalyseur pour ordonner l'agencement des briques de la vie. Donc tout ça, les questions sont ouvertes. Je ne sais pas si un jour on arrivera vraiment à trancher. Ouais. Mais là, on n'est pas dans la vie encore. Hein. Donc ensuite, il a fallu attendre les tout premiers organismes vivants, c'est-à-dire les bactéries finalement. Et qu'est-ce qu'un organisme vivant ? Avant tout, il doit être capable de se reproduire, posséder un métabolisme, etc.
Ouais. Ça veut dire que la vie apparaît quand alors dans ces différents alors, scénarios
on dit, dans ces différents, à la suite de ces différents scénarios pour les briques de la vie, on recherche activement les premières traces de vie et les hypothèses, c'est aux alentours de 2,8 à 3,5 milliards d'années.
Milliards d'années.
Oui. Là, ça sera les premières traces, mais il y a beaucoup de controverses parce qu'il y a des stromatolites qui auraient été fabriqués par des cyanobactéries.
Qu'est-ce que c'est les stromatolites ?
Les stromatolites, ce sont des structures calcaires en feuillets qui seraient le résultat de l'activité des cyanobactéries qui, une fois se dégradant, laissaient les traces de calcaire.
Elisabeth Bardèze ?
Oui, parce que dans les stromatolites, il y a des couches successives. Certaines couches sont organiques et les suivantes sont minérales. Hein, et donc, ceci pourrait être dû à l'activité de cyanobactéries qui seraient mortes et puis de nouveau la couche minérale et ainsi de suite. Mais bon, beaucoup de controverses sur ces choses.
Allez, on se retrouve dans un instant pour parler des toutes premières traces de vie, de, évidemment, la photosynthèse et du rôle de la lumière dans tout cela avec vos messages franceinter.fr.
I guess for now you've got the last laugh.
I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm indifferent. Truly but really I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can go back, please enjoy your party, I'll be here somewhere in the corner under clouds of marijuana with this boy who's hopping. I can hardly hear over this music I don't listen to and I don't wanna get with you, so tell my friends that I'll be over here. Oh, here. Oh, here. Oh, I ask myself, what am I doing here? Oh, here. Oh, here. And I can't wait till we can break up out of here. Excuse me if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this, and I know you mean only the best, and your intentions aren't to bother me, but honestly I'd rather be somewhere with my people. We can kick it and just listen to some music with the message like we usually do, and we'll discuss our big dreams, how we plan to take over the planet. So pardon my manners, I hope you'll understand that I'll be here, not there in the kitchen with the girl who's always gossiping about her friends. Oh, tell them I'll be here, the boy who's throwing up cause he can't take what's in his cup no more. Oh God, why am I here? Oh, here. Oh, here. Oh, I ask myself, what am I doing here? Oh, here.
Here, Alessia Cara à l'instant sur France Inter. Nous parlons de la lumière dans la tête au carré aujourd'hui avec Bernard Valeur et Elisabeth Bardès, photophysico-chimiste, comme vous nous le disiez tout à l'heure, la lumière et la vie, donc cette subtile alchimie paraît aux éditions Belin dans la collection Pour la science. Les courriels des auditeurs, il y a Christophe sur Twitter qui nous dit ceci, la lumière, vous nous le disiez également tout à l'heure Bernard Valeur, c'est une source d'énergie, la vie terrestre l'utilise, mais la vie s'est développée dans les fonds marins. La lumière ne semble donc pas si indispensable que cela. La vie ne serait-elle pas tout simplement opportuniste, demande Christophe. Elle prend l'énergie où elle se trouve.
Oui, je crois
Elisabeth
que
Bardès.
Ça me paraît une façon jolie de dire les choses, effectivement. Simplement, un organisme vivant a besoin de fabriquer sa matière organique. Oui. Sa matière organique, elle est constituée principalement de carbone, puis d'azote, de soufre, de phosphore et d'oxygène. Les trois premiers éléments que je viens de citer sont sous forme réduite dans la matière vivante. Or, dans la matière minérale, elles sont sous forme oxydée. Donc, pour les organismes dits autotrophes, qui vont se nourrir de matière minérale, ils vont avoir besoin, au moment de cette nutrition par la matière minérale, d'un apport d'énergie considérable pour la transformer en matière organique. Et donc là, il va falloir prendre de l'énergie. Ouais. Or, la photosynthèse est un moyen par lequel un certain nombre d'organismes vivants, dits photo-autotrophes, récupèrent l'énergie solaire pour constituer leur matière vivante. Mmh. Mais on a aussi de ce qu'on appelle la chimiosynthèse, c'est-à-dire récupérer l'énergie nécessaire à la fabrication de la matière vivante, avec en amont une autre réaction chimique qui produit de l'énergie. Donc, vous voyez que la photosynthèse n'est pas le seul processus qui permet d'accéder, de fabriquer de la matière vivante à partir de la matière minérale.
Bernard Valeur, la lumière ne semble pas si indispensable que ça, d'accord, mais la diversité qu'on observe sur Terre, elle n'existerait pas par contre sans cette lumière.
Ah oui, oui, bien sûr, la lumière intervient de façon extrêmement diverse. Les animaux les perçoivent de façon diverse et s'y adaptent selon leur environnement. Et donc la lumière intervient de façon extraordinairement variée.
Petit bonhomme vert sur franceinter.fr nous dit, est-ce qu'il existe des espèces de la faune qui vivent de la lumière mais qui ne la voient pas, justement?
Oui, bah, par exemple, on peut prendre des espèces cavernicoles qui ont perdu leur vision parce que au fur et à mesure des générations, elles ont toujours vécu dans l'obscurité. Bon, donc elles ne voient pas, mais elles vont manger une matière organique qui résulte de la chaîne alimentaire initiée par la photosynthèse.
Donc il en faut quand même.
Hein, pour ces espèces-là qui se nourrissent de matière organique, oui.
Jean-Claude Amezen nous parlait tout à l'heure des cyanobactéries, Elisabeth Bardès. Alors justement, quel rôle ils ont eu, à quel moment ils interviennent dans ce processus? C'est les premiers, au fond, qui ont utilisé la photosynthèse?
Non. Vraisemblablement, il y a d'autres bactéries qui ont précédé les cyanobactéries, qu'on appelle les bactéries pourpres et vertes, et qui, exécutent une photosynthèse, c'est-à-dire récupèrent l'énergie solaire pour constituer leur matière organique, mais ne décomposent pas l'eau et ne dégagent pas d'oxygène. Donc ce sont des bactéries dites, une photosynthèse dite anoxygénique. Et cette photosynthèse aurait précédé la photosynthèse oxygénique qui est effectuée par les cyanobactéries, qui aurait donc peut-être apparu plus tard.
Ouais. Là, pareil, on peut dater ces processus ou pas pour qu'on ait une vision à peu près de ce qui s'est passé
on
sur l'échelle du temps?
On est entre 3,5 et 3 milliards d'années.
Donc on est vraiment au tout début.
Tout début. Et naturellement, l'oxygène se dégageant, cet oxygène a servi d'abord à oxyder toutes les matières minérales, tous les métaux dont la Terre était constituée. Et puis, progressivement, une fois que tout cet oxygène a été emprisonné par la croûte terrestre et s'est dégagé dans l'atmosphère, cet oxygène progressivement a été bombardé par les rayonnements ultraviolets. Et ce bombardement a décomposé une partie de l'oxygène, le transformant par suite d'une réaction secondaire en ozone. Et cette ozone s'est répandue autour de la planète et a permis de protéger les organismes vivants des effets délétères des ultraviolets.
Ouais. Alors ça s'est passé plus récemment dans l'histoire de la Terre.
Ça c'est beaucoup plus récent. La couche d'ozone, on estime que la couche d'ozone a été suffisante pour protéger les organismes vivants il y a 700 millions d'années environ.
Donc on ne parle plus en milliards d'années là.
Nous avons passé le milliard.
On comprend bien le mécanisme de la photosynthèse aujourd'hui.
Oui, je crois qu'on a beaucoup progressé sur le mécanisme de la photosynthèse. Je pense que sans doute l'avenir apportera de nouveaux éléments, mais les mécanismes de la photosynthèse ont été décortiqués dans le courant du XXe siècle, à partir de 1960. Ouais. Et aujourd'hui, on dispose de techniques, et en particulier des techniques de cristallographie résolue en temps, qui permettent véritablement...
Cristallographie résolue en temps, vous pouvez nous dire ce que c'est exactement ?
La cristallographie, c'est l'étude de la structure de cristaux. Mmh. Et résolue en temps, c'est l'évolution de la structure cristalline en fonction du temps au cours d'un processus. C'est clair.
C'est clair, madame le professeur, absolument. Mais j'avais besoin de ces précisions et peut-être que je ne suis pas le seul d'ailleurs.
Non, bien
cet
sûr,
après-midi.
Non. Oui, voilà. Ouais. Et donc, grâce à la visualisation de l'évolution structurale des centres réactionnels où a lieu la photosynthèse, évidemment, on fait de gros progrès sur la compréhension des mécanismes intimes.
Bernard Valeur.
Oui, je voudrais juste compléter parce que ces expériences de cristallographie de rayons X résolus en temps sont absolument superbes. C'est une équipe de l'Université de l'Arizona qui l'a réalisé. Et donc le principe en gros, c'est d'envoyer une impulsion lumineuse extrêmement courte dans le verre pour déclencher le mécanisme de la photosynthèse. Et ils examinent ensuite par rayons X l'évolution de la structure d'un microcristal du photosystème 2, de je sais plus
quelle cyanobactérie.
J'essaie de vous suivre dans ce que vous nous dites quand même.
Et ça détruit le microcristal, mais oui. On a le temps. À l'échelle de quelques millisecondes, on a le temps de voir l'évolution, c'est-à-dire le déplacement des atomes, tel que deux molécules d'eau puissent s'insérer dans le site catalytique qui est constitué d'atomes de manganèse, d'oxygène et je crois de calcium. Et donc c'est absolument fabuleux de voir un mécanisme aussi élémentaire dévoilé, filmé en quelque sorte.
Oui, mais dans cette fenêtre ultra courte.
Ultra courte.
Les horloges biologiques, là on va revenir à des exemples qui vont peut-être nous parler un tout petit peu plus. Les horloges biologiques, évidemment, dans le monde vivant, l'exemple de l'hibernation. Et pour l'illustrer, un petit tour du côté de nos amis les marmottes.
Le 2 février, on s'amuse et on se divertit en l'honneur du petit animal qui est bien le seul à être fêté par l'homme. On se dirige vers les rochers où la marmotte, lasse d'un sommeil profond dans un terrier soigneusement bouché, décide que le moment est venu d'assister à l'éclosion du printemps. Elle montre le bout de son nez, puis passe sa large tête plate aux longues moustaches. Aussitôt, le comité salue celle qui annonce que bientôt glaces et neiges vont disparaître. La légende raconte que si le soleil brille lorsqu'elle sort, la marmotte, effrayée par son ombre, retournera dans son terrier. Au contraire, un temps nuageux l'incite à rester dehors. Ceci veut dire que le beau temps est désormais arrivé.
Voilà, charmante archive de l'année 1965 avec les marmottes, mais a priori ça fonctionne toujours comme ça chez ces animaux, entre autres pour évoquer donc le processus d'hibernation, Bernard Valeur. Est-ce que ça veut dire que ces animaux se coupent totalement de la lumière ?
Oui, alors avant de répondre à cette question, il faut bien situer l'hibernation dans un cadre plus général qui est le photopériodisme animal.
Ah, qu'est-ce que c'est ?
Alors, et il existe aussi un photopériodisme végétal qui est la floraison. Mm-hmm. Donc, on n'est plus dans le cycle circadien de 24 heures, mais dans un cycle annuel qu'on appelle circumannuel. Mm-hmm. Et donc, il est régi par la photopériode. Et la photopériode, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement la durée du jour. Et elle varie évidemment au cours des saisons. Et donc, tous les organismes vivants ont des photorécepteurs qui permettent de mesurer cette durée du jour. Et quand les jours raccourcissent, alors j'en viens à l'hibernation, quand les jours raccourcissent, eh bien, il y a des signaux qui sont reçus, qui sont transmis, de telle sorte que certains mammifères, on a cité les marmottes, on pourrait citer le hérisson, le hamster, etc., entrent en hibernation, c'est-à-dire qu'ils réduisent leurs dépenses d'énergie.
Ouais. Mais de façon drastique, hein ?
À 95%. Ouais. 95%, donc il ne reste que le métabolisme de base. Hein ? Et donc cette entrée en hibernation est principalement régie par la photopériode, mais également par la température. Alors que la sortie de l'hibernation est principalement régulée par la température, la réélévation de température donc à la fin de l'hiver. Ouais. Alors ça, c'est vrai pour les mammifères. Hein. Pour les insectes, c'est un petit peu différent. On appelle ça la diapause, qui est un état de vie ralenti. mais qui est également régi par la photopériode.
Est-ce que c'est vraiment une interruption totale, justement, de vie, quasiment, en tout cas, chez ces animaux, ou est-ce qu'il y a quand même des petites périodes où
ils se réveillent et ils se remettent un petit peu en route l'espace d'une journée, puis ensuite ils retournent dans leur
C'est pour justement aller puiser un petit peu de lumière ou pas, a priori?
Surtout peut-être pour compléter le stock
d'alimentation. On parlera des yeux, évidemment, avec vous dans un instant. Très important dans ce dossier sur la lumière. On se retrouve dans un instant après Arthur H., Nancy et Tarzan.
J'avais en ma possession un miracle à deux sous, une chanson de casse-cou. C'était pour toi, Nancy. Je suis ton Tarzan, ton Zorro, ton cowboy, ton Zéro, ton gris-gris, ton bad boy, ton Spider-Man. Oh, je suis ton Tarzan, ton Zorro, ton cowboy, ton Zéro, ton gris-gris, ton bad boy, ton Spider-Man. Mais Nancy riait tellement et jamais son rire clair que pour entendre ton rire d'enfant, je chante encore. Nancy, je suis ton Tarzan, ton Zorro, ton cowboy, ton Zéro, ton gris-gris, ton bad boy, ton Spider-Man. Oh, je suis ton Tarzan, ton Zorro, ton cowboy, ton Zéro, ton gris-gris, ton bad boy, ton Spider-Man. Oh! Une nuit, Nancy m'effleure et elle me souffle comme un baiser. Je veux tes mots et ton parfum, ta chanson et tes mains. Oh, maintenant si je ne suis pas plus qu'un voyeur, qu'un plaisanteur, prends ma chanson et va-t'en. Je ne suis qu'un mauvais garçon.
C'est Arthur H.
La tête.
Le mètre est défini comme la distance parcourue par la lumière
carré
en une fraction de seconde, qui est l'inverse de la vitesse de la lumière. Donc c'est à peu près 3 millièmes de millionième de seconde. Et ça, c'est la définition du mètre dans le vide.
Sur France Inter.
Et voilà, et on parle de lumière cet après-midi avec mes invités Bernard Valeur et Elisabeth Bardet. Ce livre « La lumière et la vie » aux éditions Belin. Une question de Jacques à Nancy. Pour vous peut-être Bernard Valeur, pourquoi est-ce que cette lumière bleue des ordinateurs perturbe notre sommeil? On a toujours des questions sur la lumière bleue. Hein.
Ah oui, ça c'est une question tout à fait intéressante. Pourquoi la lumière bleue? C'est parce que il se trouve que la lumière bleue réduit la production de mélatonine. Alors pourquoi la réduit? Et la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc, un excès de lumière bleue par les tablettes, les écrans d'ordinateur, et elle est bleue en partie parce que ces écrans sont rétroéclairés par des LED blanches qui ont une composante bleue, puisque c'est une LED bleue qui est la lumière bleue qui excite les luminophores. Et alors donc pourquoi production de mélatonine est freinée? Eh bien parce qu'il faut remonter jusqu'à la rétine pour expliquer que la luminosité ambiante est captée par la rétine, mais par des cellules ganglionnaires spéciales qu'on appelle les cellules à mélanopsine. Et c'est le synchronisateur des horloges biologiques. Il est là, c'est-à-dire que les cellules à mélanopsine envoient une information à notre horloge biologique, qui se situe dans l'hypothalamus, dans le noyau suprachiasmatique. Et c'est ce noyau, cette horloge biologique, qui donne des ordres à la glande pinéale de produire de la mélatonine.
D'accord. Tout
ce mécanisme est en branle. Et donc, l'œil voit une luminosité, surtout dans le bleu. Oui. Parce que les cellules ganglionnaires à mélanopsine sont particulièrement, elles ont un maximum de sensibilité dans le bleu.
Alors, vous n'êtes pas médecin ni chronobiologiste, mais il faut conseiller aux gens, peut-être, avant le sommeil, de pas passer trop de temps devant les écrans.
Ah oui. Il faut éviter de passer trop de temps, surtout les enfants, parce que ça provoque un retard à l'endormissement. Et si vous accumulez ce retard jour après jour, après à la fin de la semaine, vous avez une dette de sommeil qui peut vraiment provoquer des troubles de santé.
Justement, la dette de sommeil est peut-être une solution pour aider ceux qui souffrent l'hiver, en particulier la luminothérapie. Vous en dites quelques mots dans votre livre, extrait d'un reportage tourné en 2009.
Un matin d'hiver, comme beaucoup d'autres à Paris. Une grisaille qui peut provoquer une dépression saisonnière. 3% de la population serait touchée en France. Anaël n'en est pas là, mais la jeune femme reconnaît que la météo joue sur son humeur.
Peut-être que je suis plus stressée et que j'accepte moins facilement certaines choses. Je suis peut-être un peu plus chiante qu'à l'habitude.
En pleine crise, pas facile de prendre l'avion pour aller faire le plein de soleil. Du coup, Anaël a opté pour un dispositif de luminothérapie.
Ça remplacera pas les vacances, faut pas se leurrer. Maintenant, ça fait du bien.
Voilà, cette lumière en boîte, Elisabeth Bardez, ça fonctionne vraiment ?
Ça fonctionne, mais il vaut mieux quand même, pour que ça ait un effet raisonnable, que ce soit conseillé par un médecin et géré par une équipe médicale. Oui. Alors on peut effectivement, avec une luminothérapie, on peut décaler l'heure de réveil ou l'heure d'endormissement selon les difficultés qu'on peut avoir.
Il y a pas mal de promesses autour de la luminothérapie, Bernard Valeur.
Oui, mais Elisabeth a tout à fait raison d'insister sur la nécessité d'un contrôle médical. Oui. Et un médecin chronobiologiste avec qui j'ai discuté me disait qu'il n'aimait pas le terme luminothérapie, qui fait un peu lumière d'ambiance, médecine douce, mais qu'il préférait parler de photothérapie, parce que c'est vraiment utiliser la lumière en tant que médicament, en tant que dose, intensité, et puis aussi, là justement, c'est de la lumière bleue. Il faut que ça soit riche en lumière bleue, justement, pour compenser certains effets.
Alors, l'œil, alors ce chef-d'œuvre de l'évolution, c'est comme ça que vous le baptisez, et à raison, parce que grâce à vous, alors moi j'ai découvert le nombre d'yeux différents selon les espèces, mais c'est absolument incroyable, Isabelle Bardez.
Oui, c'est absolument incroyable, et c'est surtout, quand vous dites des yeux différents, c'est vraiment les techniques visuelles sont absolument différentes, et qui peuvent se combiner, puisqu'il y a certains yeux qui sont avec des réflecteurs, et d'autres avec une focalisation par un cristallin. Et vous pouvez même avoir une combinaison des deux. Ça arrive chez un petit poisson, là. Et donc, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a une adaptation à l'environnement tout à fait fantastique.
Il y a les yeux camérulaires et les yeux composés. Un tout petit mot sur la distinction entre les deux.
Les yeux camérulaires comportent une chambre, comme nos yeux, les nôtres, dans laquelle il y a le vitré. Et les yeux composés sont constitués de différentes entités juxtaposées les unes aux autres en forme de petits cônes.
Comme chez la libellule, par exemple.
Chez les insectes.
Mais aussi chez la palourde.
Oui, c'est ça. Et ça va procurer un champ visuel beaucoup plus large.
Oui, la palourde a des yeux, il faut le savoir.
Et vous avez vu là...
Mais juste pour détecter la luminosité, pas pour former
l'image. C'est ça.
Avez-vous vu la coquille Saint-Jacques avec ses centaines de petits yeux bleus?
C'est incroyable. Et alors, je sais que vous avez une amie qui est la crevette menthe, vous, Bernard Valeur.
C'est ma favorite.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier?
Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous disposons de trois types de cônes pour voir les couleurs, et puis des bâtonnets pour voir dans la pénombre, mais la crevette menthe, elle a 16 photorécepteurs. Et il y en a 12 qui sont dévolus à la vision en couleur. Et il y en a 4 qui sont dévolus à la détection de la polarisation. Mais pas seulement la polarisation de la lumière linéaire, mais aussi circulaire. Ouais. Alors, les chercheurs se sont demandé, mais alors elle voit beaucoup mieux les couleurs
que
nous. Mais
c'est ça,
oui. Eh bien, pas vraiment. Parce que ce qui est très important dans la vision de la couleur, et là, il faut rappeler une chose très importante, c'est que la couleur n'existe pas en tant que telle. C'est la sensation que, que procure le cerveau lorsque de la lumière frappe les photorécepteurs. Or, dans le cas de la crevette menthe, il semble que le cerveau n'effectue pas du tout, comme chez nous, une comparaison des signaux qui proviennent des divers types de photorécepteurs. Donc, elle va voir des photorécepteurs, elle a des photorécepteurs à différentes longueurs d'onde, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va distinguer des centaines de milliers de couleurs, alors que nous, avec seulement trois cônes, trois photorécepteurs.
On se débrouille pas mal.
On
a une belle palette.
Voilà.
Ouais. Et la couleur, les couleurs sont absolument indispensables dans la perception justement des animaux. Ça, vous en parlez longuement dans le livre. Pour la communication en particulier,
pour la communication, pour la séduction, pour la reproduction, également pour se nourrir. Et donc, ce sont des signaux. En réalité, la couleur procure des signaux qui vont permettre aux organismes de survivre.
Ouais. Un petit mot sur la bioluminescence, parce que vous en parlez dans votre livre. Et vous citez un exemple qui m'a beaucoup étonné d'ailleurs, c'est que dès 1900, on a imaginé justement le rôle des bactéries pour l'usage de la lumière, pour s'éclairer, c'est ça ?
Oui, tout à fait. La bioluminescence est connue depuis longtemps et un des champions de la bioluminescence au début du XXe siècle était Raphaël Dubois. Et c'est donc lui qui avait proposé lors de l'exposition universelle de 1900 d'utiliser la bioluminescence pour s'éclairer. Et puis on y revient maintenant compte tenu des contraintes actuelles.
Ouais, mais il avait déjà l'idée, en tout cas le processus était en route.
Il avait déjà cette idée puisqu'il avait observé
c'est
belle
lumière. Parce que dans le livre, vous posez la question, vous dites est-ce qu'on va parvenir un jour à utiliser les bactéries justement. Voilà, il y avait déjà il y a ce projet Philips, mais il y a aussi des jeunes gens. On avait reçu Sandra Ray par exemple dans cette émission il y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, qui a créé une start-up justement pour développer un système de lumière biologique. Donc c'est en route, ça commence
bien
déjà.
Sûr. Et c'est une lumière émise par les organismes et qui n'est pas très très intense, mais
en tout cas on arrive à pousser l'intensité pour faire en sorte peut-être d'éclairer les villes plus tard. C'est une des promesses en tout cas. L'optogénétique, on n'a pas le temps d'en parler, Bernard Valeur, c'est un nouveau domaine de recherche.
Oui, ça
là
mériterait
aussi
une émission entière.
Voilà, ben on peut le découvrir en tout cas déjà dans votre livre.
Oui, déjà les premiers éléments.
La lumière et la vie, c'est une subtile alchimie et c'est aux éditions Belin pour la science. Bernard Valeur, Elisabeth Bardès, merci beaucoup à tous les deux d'être passés dans notre tête au carré.